Les conférences du Collège de France.
Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de la théorie, mais moi, je ne suis pas trop un théoricien, disons comme ça. Donc, comme d'habitude, vous verrez, on partira de l'interprétation du détail et j'essayerai de construire un nouveau modèle herméneutique. Je me permets juste de rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, à la deuxième séance, où nous avons analysé quelques textes littéraires et certains aspects de la mise en page des inscriptions métriques, ce qui nous a permis de conclure que les inscriptions étaient lues à cette époque à haute voix et que leur utilisation était surtout orale. Nous avons également vu que cette dimension orale a des conséquences sur notre évaluation de la littéralité des textes, soit des textes épigraphiques que des textes littéraires, et sur la perception de la paideia hellénique. Aujourd'hui, je voudrais remettre, toujours en gardant à l'esprit ce qu'on sait de la dimension orale comme facteur de diffusion de la culture, je voudrais remettre en question les modèles herméneutiques traditionnels qui opposent les hauts et les bas, dans un sens qualitatif. Des catégories de bas m'intéressent plus particulièrement, la poésie chrétienne à maître classique et les inscriptions en vers soi-disant imperfaites. J'essayerai de vous montrer que les bas dans l'Antiquité tardive ne signifient pas nécessairement mal fait, ou sans valeur, comme d'habitude on le qualifie, mais qu'il pouvait être porteur de nouvelles valeurs esthétiques. Commençons une fois de plus par la Provence du monde hellénisé. Nous sommes à Igaz, une petite ville située au nord-est d'Apamée, à peu près dans le cercle rouge, où on a retrouvé des inscriptions en vers commémorant la construction d'une maison de famille fortifiée. Ce sont des photos pas extraordinaires, à vrai dire, mais vous voyez que on voit bien de la mise en page encore des lignes qui marquent les vers. Cette inscription sont gravées sur une assise de basalte destinée à l'origine à être insérée dans la façade, peut-être au-dessus du linteau de la porte de la maison. Elles sont respectivement un épigramme de 12 hexamètres précédé par un trimètre iambique et un autre épigramme de 11 vers iambiques. Tous deux ont fait l'objet des soins exégétiques de Denis Feissel, qui a grandement amélioré les additions précédentes et dont le texte est ici reproduit. Et voilà. Vous voyez, c'est le texte de la première et ça la deuxième inscription. La datation se situe probablement dans le deuxième quart du VIe siècle, peut-être 546-547. J'aimerais commencer par la seconde inscription, l'inscription en vers iambique, c'est celle que vous avez à l'écran. Je vais lire la traduction française de Monsieur Feissel. Dieu me garde, je ne redoute pas les barbares. Cette maison, la grâce de Dieu salvatrice, la donna à Maras à édifier, comme il l'avait voulu. Auteur de ces vers, Itus Sticus, en rouge, qui a une expression un peu singulière en grec. Nous sommes fiers de former une seule légitime famille, nous, Pantaléon, Petros, Léontia, qui ensemble avons eu la chance d'avoir des pères qui étaient frères et des mères qui étaient sœurs, bien, bien très précieux. Et sous la conduite des lois, Léontia, qui a beaucoup goûté au plus savant discours, s'unit à moi, Petros, en vue, si Dieu nous l'accorde, de la procréation d'enfants légitimes. Les derniers mots sont entre guillemets parce que c'est l'adaptation épique, disons, poétique, pardon, d'une formule légale. Les membres de cette famille, qui pratiquaient une endogamie légitime, comme l'a bien montré Feissel, se définissent comme séovères, hyperistichus. C'est-à-dire qu'ils sont les auteurs de cette inscription et, avec toute vraisemblance, aussi auteurs de l'inscription en hexamètre que nous allons voir d'ici quelques instants. De plus, Leontia, l'épouse de Petros, se vante d'avoir reçu une éducation littéraire de haut niveau et a sûrement Pécoma. Les inscriptions antiques, comme vous le savez, sont en règle générale anonymes. Et lorsque la signature apparaît, dans un nombre, il faut le dire, très réduit de cas, c'est d'ordinaire par volonté de souligner la paternité du texte. C'est aussi le cas dans notre inscription. Petros et Leontia devaient être fiers de leur culture, qui ne devait pas être répandue à gaz. Ce n'était en effet pas des poétéraux un peu prétentieux. La lecture de la première épigramme, celle en hexamètre, celle-là, montre bien qu'ils connaissaient leur métier. Ce texte est une invocation pour la protection de la maison. Il y a, disons, un petit prologue iambique, qui était très à la mode à l'époque tardive, suivi par un petit poème en hexamètre. Que la Trinité, Dieu chasse au loin l'envie. Image du Dieu de Sieh, Verbe, lumière propice, toi qui es le Christ, toi qui as édifié le monde vagabond, fais descendre sur moi, pour richesse, ta grâce à jamais incorruptible. Le Christ, à jamais vivant, offre sa main qui délivre des maux. Aussi ne serait-je redouté le dessein du malfaisant démon, ni de l'homme l'aile odieux et sans loi. Toi qui par tes seules volontés as fixé les fondements de la terre, les racines célestes et celles de la mer infertile, puisses-tu, je t'en supplie, offrir cette demeure aux générations futures également, sereines, inébranlables, à jamais glorieuses à voir. Même de la traduction française, vous voyez qu'il s'agit d'un poème qui a essayé d'être un poème de haut niveau, disons, comme ça, raffiné, avec des conseils qui sont un peu courus au début, comme par exemple « Le monde vagabond ». Après un premier trimestre, suivent 10 hexamètres d'excellente facture dans cette inscription. Tous se terminent par un accent sur la pénultième, dès sur la dernière syllabe, et les vers 6, 9, 11 sont constitués de 4 mots. On a déjà vu que les tétracolos, c'était un vers à la mode à cette époque-là. Et tous ces traits, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans les décours précédentes, sont des caractères propres au style moderne. Il n'est donc pas surprenant que l'analyse minutieuse que vous avez, voilà, ici à l'écran, quelques peu résumés, montrent de nombreuses expressions du style de Nonnos de Panopolis, le grand poète du 5e siècle. Elles sont des expressions en verte. Ça suffit de voir dans un poème « Cosmon alitin » au vers 3 pour reconnaître immédiatement qu'il s'agit d'un poète qui imite le style de Nonnos. Il y a encore d'autres passages qui dérivent de la poésie du poète panopolitain. Mais il y a plus ici, c'est ça qui m'intéresse. Il y a des réminiscences inattendues provenant des poètes beaucoup moins connus. Vous voyez dans l'appareil qui est à gauche des sigles, à rouge, la métaphrase des psaumes du Pseudo-Apollinaire et le poème du Saint-Cyprien de Dossi. La métaphrase des psaumes est un poème de la seconde moitié du 5e siècle, qui est un paraphrase, un hexamètre du psautier, un poème presque inconnu aujourd'hui, mais qui à Byzance a eu une grande fortune, parce qu'il était utilisé à des fins didactiques, pour apprendre à la fois, disons, la langue épique et pour se rappeler le contenu des psaumes. Et l'autre poème inattendu, c'est le poème sur Saint-Cyprien de l'impératrice Eudocie. Lui aussi une réécriture d'un récit hagiographique sur la conversion d'un païen en tété. Il est aussi clair que les auteurs connaissaient également l'œuvre chrétienne de Nonnos, la paraphrase de l'Évangile de Jean. Insomma, ces petites épigrammes est la preuve éloquente d'un changement culturel. Alors que la paraphrase de Nonos a connu une fortune presque immédiate, même dans les inscriptions, on a des exemples d'Égypte, d'Aphrodisie, de Ancarie, par exemple, la connaissance du poème de Dossi et du pseudo-Apollinaire est au contraire une rareté absolue. Les seuls qui semblent les connaître et les imiter est un contemporain des poètes de Gaz, c'est-à-dire Dioscor d'Aphrodite. Ici, dans la salle, on a le plus grand spécialiste de Dioscor, Monsieur Fournet. Cette coïncidence, Dioscor n'était pas un poète professionnel, il était, quelqu'un qui aimait composer des vers pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ses correspondants. Or, cette coïncidence, c'est pas au hasard, je crois, et elle explique, avec toute vraisemblance, s'explique par la même éducation scolaire, dans laquelle, outre les classiques comme Homère, Euripide, Ménandre, Ampède d'Apollonios de Rhodes, etc., les poètes chrétiens récents jouèrent un rôle. Et vous voyez comme l'analyse des détails permet d'aboutir à des conclusions d'histoire culturelle qui sont très, très intéressantes. En fait, au VIe siècle, la poésie chrétienne à maître classique faisait désormais partie du curriculum studiorum. Il s'agit d'une production assez récente, je viens de le dire. Dans le monde grec, la poésie chrétienne débute au milieu du IVe siècle avec la personnalité grandiose, mais quelque peu isolée, de Grégoire de Nazianz, qui est quand même l'auteur d'un corpus de près de 18 000 vers. Et ensuite, elle devient courante au Ve siècle. Même si, il faut le reconnaître, la poésie à sujet profane, mythologique ou panégyrique, par exemple, composée elle aussi par des poètes de confession chrétienne, reste majoritaire jusqu'à la fin du VIe siècle. Juste pour éviter tout malentendu, par poésie chrétienne, on entend une poésie qui s'occupe des sujets chrétiens. Et pas simplement écrit par des chrétiennes. Si certains poètes comme Grégoire et Nonnos ont une résonance immédiate, d'autres deviennent populaires sur les tardes ou ne semblent pas avoir connu une grande fortune. C'est précisément le cas de Dossi, 5e siècle, qui fut très apprécié par Photius encore au 9e siècle. Photius qui lui a consacré un éloge très vigoureux dans sa bibliothèque, mais qui ne semble pas avoir laissé des traces dans les siècles suivants. Qui était Dossi et quel est le poème sur Saint-Cyprien qui a laissé une trace dans l'épigramme de Gaz? Nombreux peut-être sont ceux qui se souviennent d'elle comme de l'épouse de l'empereur Théodose II. Sa vie a été une petite fable, si vous voulez. Elle était née à Athènes, éduquée dans la culture classique, elle était la fille d'un rhétoricien. Devenue orpheline en 421, elle se rendit à Constantinople et fut choisie par Pulcherie pour être l'épouse de son fils Théodose II. Ed aussi excelsa une grande influence à la cour et fu lié à des personnalités importantes telles que le préfet Cyrus de Panopolis, lui aussi un poète remarquable, e le magister officiorum Polan. Dans les querelles christologiques, Ed aussi prit le part de Nestorius, alors même que Pulcherie se rangea du côté de Cyril, et puis du monophysisme, elle reviendra à l'orthodoxie très tard dans sa vie, en 455. Ed aussi a été aussi une voyageuse. À l'écran, vous voyez les villes qu'elle a visitées à plusieurs reprises. Antioche, d'où elle rapporta à Constantinople les reliques de Saint-Étienne et les chaînes de pierre, et la Terre Sainte et Jérusalem. Et lorsqu'elle fut ensuite exilée à Jérusalem à partir des années 40 du 5e siècle, elle se consacra a une intense activité politique et religieuse. En bref, une figure de proue dans la politique religieuse du 5e siècle et à ce titre bien connue des historiens. Mais Ed aussi a également été une poétesse, hôtel de nombreuses œuvres à caractère profane comme chrétien. Ici, vous avez une liste de ses ouvrages. Elle avait écrit un poème historique, disons comme ça, sur la victoire de Théodose D contre les Perses, une paraphrase de l'Octatèque de Zacharie et Daniel, encore lu par Photius, mais aujourd'hui par Dieu. Elle a même laissé une inscription en vers, qui est conservée. Et surtout, elle a laissé des poèmes intéressants, les Saints Cyprien, dont je vais reparler d'ici un second, et les Saintons Homériques. Les Saintons sont un ouvrage un peu curieux, dans lequel les vers de l'Iliade et de l'Odyssée sont défaits et réassemblés pour raconter les épisodes d'Évangile. C'est un texte plus sophistiqué qu'on ne l'admet d'habitude, qui a attiré l'attention des chercheurs ces dernières années. J'ai mis en dernier lieu, vous voyez, la récente monographie d'Anna Lefterato, The Homeric Saintos. Le Saint Cyprien, c'est un poème qu'on peut lire dans une édition Tebner, une édition italienne, malheureusement, il n'existe pas encore aucune édition française. C'est dommage, car ce dernier poème est un texte d'un grand intérêt, comme le grand byzantiniste Charles Dill n'avait pas manqué de le faire remarquer. Et peut-être il est intéressant de lire ce qu'il dit Charles Dill. Il y a dans tous ces poèmes des fortes et réelles beautés. Et l'on voit aussi tous les souvenirs littéraires, tous les rapprochements qu'évoque immédiatement cette lecture. Cyprien et Satan, c'est déjà Faust et Méphistophèle. Et dans les démons éblouissants et fiers de l'auteur grec, dans les hautaines paroles qu'il place dans sa bouche, il y a quelque chose déjà de l'archange foudroyé du paradis perdu. Ailleurs, on pense à la Divine Comédie, dans les passages d'Edo ou d'Ossi, des pans entrants énergiques, les vices personnifiés, que les mauvais esprits portent à travers le monde, les mensonges, la luxure, la fraude, la haine, l'hypocrisie et la légèreté. Et ce n'est pas assurément un mince mérite pour l'ouvrage grec du 5e siècle de faire penser aussi à Dante, à Goethe, à Milton. Peut-être il exagère un petit peu entre nous, mais il n'a pas tort. En fait, le sujet du poème est passionnant. Il s'agit d'une paraphrase, d'une réécriture en hexamètre d'un récit hagiographique qui raconte la conversion d'un mage d'Antioche, Cyprien, qui entreprend d'assouvir les désirs d'un jeune homme envers une vierge chrétienne qui s'appelle Justa, mais qui, vaincu par la foi inébranlable de cette dernière, s'est converti pour devenir finalement évêque d'Antioche et subir le martyre. Le livre, tout ça est raconté dans le livre A. Le livre D du poème raconte l'initiation de Cyprien au mystère et au culte païen. Ce sont des vers très intéressants sur le plan historico-religieux. Tandis que le livre 3 décrivait les martyrs de Cyprien et de Justa. Malheureusement, la dernière partie du livre D et tout le livre 3 ne nous sont pas parvenus. Et nous en connaissons le contenu seulement grâce au résumé de Photius dans sa bibliothèque. Alors, vous avez sans doute compris, même à travers ce résumé très vite, qu'il s'agit en réalité du cœur de la légende de Faust. Dans ce poème, c'est en fait la première attestation littéraire. Et aussi décida de donner une forme poétique à une histoire qui jouissait assurément d'une certaine popularité. L'histoire était probablement bien connue à Antioche, ville avec laquelle l'impératrice entretenait des liens étroits. Le poème, à mon avis, a peut-être composé et récité à Antioche en 438-39, lors de son premier voyage en Terre Sainte. Or, il faut dire que, malgré l'appréciation de Charles Dill, le poème a souvent été mal jugé par les savants. Pourquoi ? Edo Si avait en effet quelques problèmes avec la prosodie et le poème regorge de fautes de quantité. En outre, l'expression est souvent contournée et la langue n'est pas exempte de vulgarisme. Or, nous avons vu dans ces cours combien il était difficile de composer selon la prosodie classique, et nous pouvons peut-être être indulgents avec les bévues de Dossi. Elle n'est du reste pas la seule. On verra d'ici quelques minutes qu'il y a d'autres poèmes chrétiens qui sont caractérisés par les mêmes vices, disons comme ça. Et même enfin lettré, comme Grégoire de Nazianze, laisse passer quelques petites erreurs de prosodie dans ses poèmes. En soi, il est bien de le souligner, cela ne signifie pas nécessairement un faible niveau culturel. Isidore, que nous avons mentionné au premier cours pour ses compétences en rhétorique, ainsi qu'en philosophie, avait quelques ennuis avec la métrique, comme le rappelle son élève Damasius. Tous les hymnes qu'il a écrits n'étaient pas parfaitement conformes au style épique, mais il m'avait confié la tâche de corriger ce qui était amétrique et ne suivait pas le bon rythme. Ici, on sent le malheur d'Isidore qui n'avait pas de temps à perdre à corriger la métrique et la prosodie, évidemment. Alors, intanto che tel, le défaillance prosodiche e linguistiche de Dossi ont longtemps pesé sur le jugement qu'en ont donné les savants. On peine à trouver le nom de l'impératrice dans une histoire de la littérature grecque ou dans une histoire de la littérature chrétienne. Elle souffre, insomma, ancora des préjugés liés à un modèle herméneutique très répandu qui oppose la haute littérature. Highbrow literature, selon la très connue expression de Cyril Mengo, à la basse littérature, lowbrow literature. Par littérature basse, on entend souvent précisément la littérature chrétienne. Cela, c'est une perspective qui est très répandue parmi les hellénistes, encore il faut dire. Il s'agit d'une approche, à mon avis, erronée, qui repose surtout sur notre évaluation et nos propres critères esthétiques, sans tenir compte d'une donnée fondamentale, telle que l'impact de cette littérature sur le public contemporain. Nous avons vu la dernière fois que les poètes de grand raffinement sont très attentifs à éviter les fautes de prosodie. Et c'était certainement une angoisse qui tenaillait les écrivains professionnels. Mais nous sommes à une époque où les Grecs sont désormais accentués et où les rythmes de la prose comme de la poésie s'adaptent aux nouvelles conditions linguistiques. Combien de personnes parmi le public qui assistaient à la lecture du poème de Dossi se seront rendues compte de ces allongements ou abrégements impropres, sans compter qu'il aurait été difficile de critiquer l'impératrice qui récitait un poème. Une fois de plus, je vous invite à essayer d'imaginer les moments même de la performance pour mieux comprendre l'impact de cette poésie dite de bas niveau. À Antioche, la figure de Cyprian était très populaire et on connaissait les nombreux miracles, taphmata, qu'il a accomplis en tant que mage d'abord et puis en tant que saint. Nous trouvons des informations sur les liens, sur cette Cyprian d'Antioche, dans un discours, dans une oration, le discours 24 de Grégoire de Nazianze. Et si vous avez une belle miniature qui vient du manuscrit du 9e siècle. Et aussi, en décidant de faire une réécriture en hexamètre de l'histoire de Saint Cyprian, a dû avoir l'intention d'exalter par une composition, les origines chrétiennes de la cité d'Antioche. On peut donc, je crois, qualifier les poèmes de célébration des origines chrétiennes de la ville, pas une simple paraphrase, c'est-à-dire appartenant à un genre littéraire qui est très populaire à l'époque et qui prenait le nom de patria, c'est-à-dire sont des poèmes qui célèbrent les origines mythiques des cités, un genre qui a été très tôt christianisé. Vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de littérature. Dans la première partie du 5e siècle, en outre, le paganisme était encore présent à Antioche parmi les intellectuels et même parmi les gens du peuple. Il y avait encore une communauté pagane nombreuses. Il n'est fait aucun doute que l'intérêt de l'impératrice à ennoblir sous forme poétique l'histoire de la défaite d'un mage païen n'était certainement pas motivé uniquement par des intérêts antiquaires. Jusque-là, je veux dire, même si un poème de bas niveau, vous voyez que d'un point de vue historique et religieux, c'est un poème qui a de l'intérêt. Mais il y a encore, je crois. Je dis que le poème, c'est une paraphrase. Et aussi, en effet, a réécrit une légende hagiographique qui remonte au IVe siècle et qui est connue par trois rédactions différentes, comme souvent le cas. En de nombreux endroits, le texte de Dossi ne suit servilement aucune des trois versions et les philologues ont déployé beaucoup d'efforts pour tenter de résoudre ces points litigés en supposant une autre rédaction perdue ou des sources inconnues. Je voudrais suggérer une autre voie. Pour ma part, je crois que Dossi a également utilisé le répertoire des récits qui circulaient sous forme orale. Permettez-moi de vous en donner un exemple. Au début du poème, quand est introduite et présentée la figure de Justina, qui ensuite s'appellera Justa, Edossi se détache de manière significative du modèle en prose. Vous voyez à l'écran le modèle en prose qui est très simple, et ensuite la paraphrase, disons comme ça, qui est donnée par Edossi. Le modèle en prose dit simplement « Il y avait Antioche, près de Daphné, une vierge nommée Justine, fille de Desius et de Clédonia. Elle entendit la prédication d'un diacre, Praulius, etc. » Et voilà le vers d'Edossi. Près de laquelle, près d'Antioche, s'étend une plaine bordée de lauriers, belle à voir. Des cyprès gigantesques se balancent au vent et les eaux argentées de la Castalie sacrée y coulent. C'est là qu'habitait Praulius, un homme dévoué au Christ, un diacre du céleste, vénéré et sage, qui, armé de joie et de foi, allait toujours en chantant les livres inspirés de Dieu, la foi divine et la voix sacrée des prophètes. Pourquoi la mention de la source Castalie, les lauriers, les eaux, c'est diacone Praulius qui est armé de joie et de foi et qui chante les livres inspirés de Dieu. Il faut se souvenir de la réalité topographique. Daphné était la banlieue élégante d'Antioche, mais elle avait été, vous voyez ici des photos avec les lauriers et les sources, mais elle avait été au siècle précédent le lieu d'un affrontement entre les Antiochans et Julian au sujet de l'affaire des reliques de Saint Babylas. Le choix de situer la prédication du diacre Praulius, par ailleurs inconnu, précisément à Daphné, est à première vue surprenante. Ed aussi a sûrement visité les quartiers de Daphné et n'a guère pu inventer les détails de cette prédication, qui est aussi dans le modèle en prose, après tout. A Daphné si trouvait le célèbre temple d'Apollon, qui possédait lui aussi une source de Castalia, le même nom que celle de Delphes, une source qui rendait des oracles. Lorsque l'empereur Julian arriva à Antioche au siècle précédent, il trouva la source silencieuse et en attribua la cause alla présence des reliques de Saint Babylas, dont il ordonna l'enlèvement. Le temple d'Apollon ensuite brûla peu après et provoqua ancora più la colère et la frustration de l'empereur. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Or, l'insistance avec laquelle Edossi s'attarde sur la source, c'est un petit ekphrasis si vous voulez, rend fort probable l'effet qu'elle a vu en personne. L'effet en outre qu'elle décrit le diacre Praulius comme un poète des Écritures signifie que malgré la christianisation de la banlieue, les païens revendiquaient encore la prééminence de la source de Castalie. En y plaçant son diacre qui chante les vers oraculaires, et aussi réaffirme non seulement la victoire du Verbe de Dieu, mais encore que l'Élie a désormais acquis une sacralité supérieure, celle de la confession chrétienne. nous avons affaire à quelque chose qui est très commun à l'époque tardive, c'est-à-dire le phénomène de la christianisation des oracles. C'est quelque chose qui est tout à fait commun, juste pour vous montrer comment ça passe, même dans des endroits qui sont un peu inattendus. Vous avez à l'écran une mosaïque magnifique qui vient de la Cyrénaïque, de l'église de Casrel le Bia, datée de l'époque de Justinien. Dans cette mosaïque, il y a justement là, sous Castalie, vous voyez Castalia, la légende, qui fait partie d'un programme iconographique où il est évident que l'essence générale, c'est le paganisme a été défait et les vieux oracles ont été substitués par les véritables oracles du Dieu. Tout ça, c'est un peu compliqué pour nous, mais c'était tout à fait, disons, normal pour les gens de l'époque. Les récits, pour retourner à Antioche, les récits du diacre Praulius qui prêchait le vrai oracle à la place des faux appartenaient probablement au répertoire des histoires de la communauté chrétienne d'Antioche qui aurait été raconté à l'impératrice lors de sa visite sur les saints de Cyprien et de Justine. Insomma, je m'imagine très bien et aussi qui va visiter Daphné. Et lui montre la vieille source Castalie et lui raconte l'histoire de Praulius qui avait converti Justine, qui avait converti pas mal de païens et qui récitait les Écritures, etc. C'est pour ça qu'elle a rajouté cette ekphrasis qui est un détour du poème de la rédaction en prose. Ainsi, et c'est ça qui m'intéresse, la tradition orale, l'histoire avant le texte, come l'ha definito il medievista Oldoni, e le sources écrites, le versioni della légende agiographique, s'entremêlent dans la version édossienne. Tous les poèmes présupposent cette imbrication qui permet de sortir de l'impasse des différences entre les diverses versions, qui souvent ne correspondent pas à la dictée du poème, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer une quatrième version fantôme dont il n'existe aucune trace. Permettez-moi d'insister sur ce point-là. Je veux dire, l'approche qu'on a d'habitude, c'est rechercher les sources. Aller voir si on trouve une source écrite qui justifie tout. Quand les sources écrites n'arrivent pas à justifier, quelquefois les philologues ont l'habitude de penser à quelque chose qu'on a perdu. Ça, c'est l'approche courante que moi-même, en tant que philologue, j'ai pratiquée longtemps. Mais je me suis convaincu qu'il avait aussi un source dont il n'existe une trace qu'on peut la toucher, disons comme ça, que c'était la source de tradition orale. Et ça rentre, à mon avis, beaucoup dans la littérature tardive, beaucoup plus qu'on l'admet d'habitude. En plus, le public d'Antioche, qui connaissait bien les faits pour les avoir peut-être entendus plus d'une fois lors des sermons de la fête du Saint, de Saint-Cyprien, aurait suivi avec passion la récitation du poème. Et même s'il n'a pas tout compris, il s'agit quand même d'un grec élevé avec un lexique souvent exotique, le fait d'être informé sur l'histoire l'aura aidé à suivre avec la même disposition que nous avons déjà vue dans les cours précédents, évoquée par Procope de Gaza dans les panégyriques d'Anastase. Vous vous rappelez, Procope dit à peu près, même si vous connaissez ces choses, il est bon de les réentendre. Du reste, la communication orale, ça marche comme ça, donc il faut écouter pour retenir ce qu'on raconte. Imaginez-vous ce public dénigrer des erreurs prosodiques et une métrique quelque peu inhabituelle, l'impératrice. Par exemple, les poèmes utilisent des césures moyennes après le cinquième longum, la césure masculine, qu'on l'évite le plus possible à l'époque tardive. Donc son style est vraiment un style un peu maladroit. Je crois que si l'on veut comprendre comment ce texte fonctionnait et l'impact du texte chez le public, il faut sortir de nos propres catégories de jugement, essayer plutôt de reconstituer l'effet que ce texte avait sur le public. Il est vrai que notre perspective est quelque peu déformée par le poids écrasant de toute la littérature d'un haut niveau formel, d'un style baroque sophistiqué que la société de l'Antiquité tardive a produite dans des corpora sans fin. Il suffit de penser à Hésèbe, de Césarée, Libanios ou Jean Chrysostome. Je ne connais pas personne qui a lu tout Chrysostome, par exemple, ou quasiment. Le poids de cette littérature nous conduit d'habitude à sous-estimer le poids de la quantité de littérature composée à des fins immédiates ou dans des contextes inférieurs, souvent d'une valeur linguistique et stylistique inégale. Il est aujourd'hui bien établi dans les études que la différence entre les niveaux de style liés au genre littéraire et aux occasions était fondamentale pour comprendre la culture de l'Antiquité tardive. Un panégyrique, par exemple, était écrit dans un style élevé, un ouvrage exégétique dans un style moyen, un récit hagiographique dans un style bas. Je simplifie. Pour important qu'elle soit, cette distinction risque de nous faire sous-estimer l'importance du contenu, c'est-à-dire des images, des thèmes, des récits qui circulaient. Elle risque surtout de nous faire oublier que les plus petits dénominateurs communs de la communication littéraire de la période tardive est le prestige social de la paideia, de la culture classique, qui pouvait être à la fois un signe d'appartenance à une classe, une marque d'identité et même un langage politique. Alors, si nous voulons comprendre ce que signifie le prestige de la culture classique, même dans les couches sociales les moins élevées, nous devons nous tourner une fois de plus vers les inscriptions. Non pas tant celles de style élevé que nous avons vues la dernière fois, mais celles qui comportent les erreurs qui affligeaient tant Sidoine Apollinaire. Donc, on se déplace en Cyrénaïque, à Hydrax. Je voudrais discuter avec vous cette inscription gravée sur une tabula ansata trouvée sulla paroi d'une grotte servant d'entrepôt à un moulin à huile. Voilà. Vous voyez aussi la, même de la, du dessin qu'il ne s'agit pas d'une inscription de haut niveau, disons comme ça. Et le texte est encore pire, à vrai dire. Je vais lire la traduction de Catherine Dobias Lalou. Il y a une évocation au Christ dans la première partie et la seconde c'est un épigramme à peu près. Admire étranger cet ouvrage divin. Il est excellent à posséder et ton à avoir est fondé par un homme sans foudion que vous ici. Toi qui as accompli, il s'adresse à Saint-Fodion maintenant, toi qui as accompli d'innombrables ouvrages en faisant plus des cas de celui-ci que la demeure d'Alcinoos. Puisse Dieu t'accorder de laisser à tes enfants les fruits de tant de peines, tel est l'espoir de tous ceux qui partagent tes prières, car toi en détenant la charge de praepositus chez les morts, tu as commencé à ériger ici un monument immortel. Ensuite, la cité t'a lu stratège, tu as mené à bien cette charge en même temps que tu t'es préposé toi-même à l'ouvrage. Déjà, le français est un peu difficile, le sens est un peu difficile à suivre, mais correspond parfaitement au texte grec. L'épigramme avait été édité par Joyce Reynolds et puis à nouveau avec diverses améliorations par Catherine Dobias Lalou. Dans son édition, cette dernière observe à bon droit que l'auteur pratique l'examètre dactylique en le malmenant quelque peu. Même s'il montre qu'il connaît un peu de langue épique. En effet, il y a des mots qui appartiennent à la langue épique, mais si vous essayez de faire la scansion métrique de ces vers, vous aurez du mal à y arriver. En fait, la grandiloquence des poétismes des souhaits et de la comparaison avec le palais des Phéaciens, évoqué à travers le nom d'Alcinoos, contraste avec la pauvreté et la difficulté de la versification de la graphie. L'épigramme loue les qualités de ce petit entrepreneur et fonctionnaire provincial qui, comme les gouverneurs et les fonctionnaires municipaux, va être loué pour ses œuvres et pour sa paideia, qui a aussi la fonction d'un marqueur d'appartenance sociale. Mais le résultat est certes misérable du point de vue de la prosodie et de la langue. Vous voyez combien de fautes de prosodie et de graphie parsèment l'inscription. Je ne les appelle pas, mais bon, croyez-moi. Vous le voyez peut-être, surtout la graphie est quelque chose qui est un peu étonnant. Mais lorsque Saint Fudion, qui est, je pense, l'auteur du texte, l'a commenté aux visiteurs, ce qui a importé, ce n'est pas les bévues prosodiques ou les erreurs d'orthographe, qui ne se remarquaient pas la lecture à haute voix, en tout cas, mais l'emploi d'un langage poétique et surtout l'évocation, je crois, du palais d'Alcinoos, un nom, une image qui, même pour celui qui avait peu ou pas fait d'études, était certainement connue, parce qu'ils étaient en quelque sorte proverbiaux. Par exemple, on retrouve la même comparaison à Zorava dans cet épigramme qui célèbre la construction d'un portique dans un domus provincial. Je vais lire la traduction de Sartre. De la résidence dont tu contemples en ce moment le seul vestibule, lorsque Maximus l'aura achevé tout entière, puisse cela survenir rapidement, tu la verras supérieure à toutes les demeures d'Alcinoos. Puisse-t-il l'avoir achevé pour ses enfants et les enfants de ses enfants par celui qui accomplit toutes choses? Cette comparaison, on la trouve même chez des auteurs de haut niveau. Grégoire de Nazianz, le poète chrétien, mentionne le luxe de la table d'Alcinoos dans une liste de richesses qui ne le convaincrait pas d'abandonner sa foi, vous voyez, non? Mais pas même si tu me donnais des talents d'or et d'ambre, des champs verdoyants, des vastes troupeaux, une maison splendide, une table digne d'Alcinoos, etc., je choisirais d'être un déserteur du Christ. Et encore, au milieu entre 5e et 6e siècle, l'héritier aîné de Gaza mentionne le jardin d'Alcinoos dans une lettre élégante adressée all'architecte Julian. Il ne faut aucun doute que nous avons affaire à ce qu'on appelle un lieu commun, qui circulait dans toute la Méditerranée orientale, en haut et en bas. Pendant ses études, notre Saint Fudion, l'auteur de l'inscription de Cyrénaïque, avait peut-être appris un peu d'Homère et probablement l'emploi de ces lieux communs pour agrémenter son discours. Et ses hôtes auront aussi reconnu dans le nom d'Alcinoos l'équivalent homérique du Jardin des Délices ou du Pays des Cocagnes, si vous préférez. Il s'agit au fond d'une culture d'école élémentaire faite de souvenirs et de noms évocateurs. Ce n'est pas une surinterprétation, mais c'est justement ce qu'est dit en contemporain, c'est-à-dire Synésios de Cyrène, le philosophe néoplatonicien, évêque de Cyrène, qui dans une merveilleuse lettre adressée à son ami Olympius au début du 5e siècle, 402, décrit la vie simple des bergers dans la campagne du sud de la Cyrénaïque et évoque leurs champs pastoraux et leur culture homérique, entre guillemets. Cette lettre avait déjà évoqué par Dobias Laloux pour rappeler la diffusion de la culture homérique en Cyrénaïque. Elle, à mon avis, est encore plus importante pour les types de communication qu'elle nous laisse entrevoir. En voici un extrait que vous avez à l'écran. Tels sont, vois-tu, les divertissements qui, avec d'autres du même genre, constituent dans notre province nos occupations saisonnières. Ils sont anciennes et ce sont les biens des pauvres gens. Mais l'empereur, les amis de l'empereur, la danse de la fortune, tous les gens des sujets dont nous entendons parler dans nos assemblées et tous les noms qui, comme des flammes, s'allument au fait de la gloire pour s'éteindre ensuite, tout cela est, comme des justes, passé sous silence ici. Et nos oreilles sont dispensées d'entendre parler de telles questions. D'ailleurs, on a beau savoir clairement, sans doute, qu'il y a un empereur et qu'il vit toujours. Chaque année, les collecteurs d'impôts nous le rappellent. C'est la réalité qui est beaucoup plus vive que la littérature. On ne sait plus très clairement qui il est, et parmi nous, certains pensent que maintenant encore c'est le règne d'Agamemnon, le fils d'Atrée, le personnage de l'expédition de Troie, les six vaillants guerrières, car tel est le nom que de l'enfance on nous a donné pour désigner l'empereur. Et nos braves Bouvier donnent à l'un de ses amis le nom d'Ulysse. C'est un homme chauve, mais habile à traiter les affaires et dans les difficultés à trouver des moyens d'en sortir. Il rit à n'en pas douter chaque fois qu'il parle de lui, car il se figure que le cyclope a été aveuglé l'an passé et il se contente de la manière dont le vieux est sorti de la caverne sous les béliers pendant que le maudit cyclope en garda la porte et comment celui-ci crut que la présence du chef du troupeau à l'arrière-garde avait pour motif non le poids de son fardeau, mais celui du malheur de son maître auquel il s'associait. La lettre est très longue, mais déjà c'est... Ces petits passages montrent bien comment cette culture homérique d'école simplement restait dans la mémoire des gens, même des gens qui n'avaient pas trop étudié ou qui avaient simplement appris un peu à lire et à écrire. Cette connaissance de base, disons comme ça, de la culture homérique, un peu comme une fable, transmise et renforcée par la transmission orale, deve être la norme. Elle explique bien certaines manifestations de la païdéia qui peuvent surprendre à première vue, comme celle-ci qui se trouve sur une mosaïque qui appartient au complexe de la synagogue, donc on est dans un milieu juif, de Kyrios Leondis à Skitopolis. Il s'agit d'une mosaïque du 5e siècle qui, vous voyez, la photo n'est pas terrible, mais je pense que vous avez, avec le dessin, on arrive à voir le programme figuratif. Il y a trois tableaux. Dans les premiers, on trouve Ulysse attaché au mât principal, avec en dessous une Néréide chevauchant un ictio centaure et une inscription grecque. En dessous, un navire à des cruches, des pitoy, un jeune homme, nu se battant avec un ictio centaure mal conservé. Et ensuite, une sirène jouant de la flûte. Entre la sirène et les marins se trouve un oiseau. Le troisième panneau est un paysage nilotique, avec Alexandrie, un nilomètre et un nil personnifié, un combat d'animaux, un bateau avec un marin debout près du mât. Les inscriptions grecques demandent la protection des dieux pour les propriétaires et ne mentionnent pas de façon explicite les sujets iconographiques. Or, cette combinaison du paysage nilotique et des scènes odysséennes est tout à fait exceptionnelle. On sait que l'épisode d'Ulysse des sirènes était lu comme une allégorie de la capacité d'Ulysse à résister à la tentation, alors que dans les milieux judaïques, l'Égypte était perçue comme la terre du mal et de la corruption. Alors, on a proposé d'interpréter cet programme iconographique de façon allégorique. Kyrios Leondis, veut éviter la tentation et la corruption et renforcer son âme au cours de son voyage dans le monde matériel. Tout cela nous semble particulièrement difficile et abscon, mais c'était en fait la manière courante d'interpréter Homère et cela ne nécessitait pas une éducation particulièrement sophistiquée de la part du propriétaire et de ses visiteurs, à qui d'ailleurs Kyrios Leondis aura fièrement montré la mosaïque et avec qui il aura discuté de l'interprétation. Il faut dire, ici, nous voyons dans un milieu qui est un peu anatenu, comment la culture homérique s'est passée et comment les gens prenait son goût quand même à discuter de l'interprétation des poèmes homériques. Nous avons besoin de rappeler que Ulysse, Homa principal, dans un contexte chrétien, était interprété de façon allégorique comme l'antitype, la préfiguration du Christ dans les sarcophages, etc. C'est quelque chose de très répandu. Or, cette utilisation de la culture classique qui devient à la fois un fait social et identitaire et qui unit également des interprétations qui en fait la transforment, imprègne également la culture chrétienne et la poésie en particulier. Non seulement la poésie raffinée de Grégoire de Nazianze ou la paraphrase de l'évangile de Jean de Nonnos, mais aussi celle d'un niveau moins sophistiqué des productions locales et sans grande circulation. Et dans les minutes qui me restent, c'est ce dernier aspect que je voudrais voir avec vous. J'évoquais déjà la publication d'un codex de papyrus de la Fondation Bodmer à Genève entre 1984 et 1999. Ont été publiés les papyri Bodmer 29 37 et la littérature grecque chrétienne s'est enrichie de huit nouveaux poèmes, tous en hexamètre, sauf un distique élégiaque, pour à peu près 700 nouveaux vers. Les codex appartiennent à une typologie qu'on appelle multiple texts manuscripts, c'est-à-dire un manuscrit qui contient des textes différents mais organisés dans un ensemble cohérent. Les codex en effet contenaient les quatre premières visions du Pasteur d'Hermas, un texte des origines chrétiennes, suivi par cette série de nouveaux poèmes chrétiens. Comme vous voyez, une vision, ensuite un poème sur Abraham, un poème sur les justes, et des poèmes qui sont des poèmes, disons, des structures scolaires des étopées. Tout l'ensemble, probablement, est construit pour désigner une histoire du salut personnel. Je pense que l'auteur, c'est l'auteur du premier poème, son nom était Dorotheos, et il s'adresse à une communauté qui s'appelle les Justes, dit Caioi. Ces codex appartenaient à ce qu'on appelle la bibliothèque Bodmer, qui est un ensemble de textes grecs, latins et coptes, un peu éparpillés entre Genève, Dublin, Duke University, Cologne et Montserrat, et aussi à Rome, le Vatican et à Oslo. Et c'était une bibliothèque dont l'origine n'est pas encore précisément connue, mais disons que la tendance plus récente de la critique c'est d'indiquer les panopolites dans la Haute Égypte, peut-être Dishna, comme Jean-Luc Fournet l'a suggéré il y a quelques ans. Or, l'auteur de ces poèmes, démontre une bonne connaissance de la poésie épico-didactique, il cite Homère, Hésiode, même Théognis, Apollonios de Rhodes, mais une prosodie absolument erronée d'un point de vue classique. Allongement indu de voyelles courtes, abrégement de voyelles, des diphtongues longues, etc. La langue comporte également des vulgarismes, non moins qu'un usage abondant de latinisme technique, qui est totalement étranger à la langue épique. Comme dans les poèmes de Dossi, nous avons affaire à un auteur qui, de notre point de vue, est de bas niveau. Mais pour la communauté qui lisait ces textes, et les a notés avec soin parce que les codex comportent des variantes marginales qui améliorent souvent les textes, ce qui importait était le contenu et l'adaptation du système expressif épique à un type de poésie complètement différente. Les poèmes peuvent être datés avec une certaine approximation au milieu du IVe siècle, époque à laquelle la poésie chrétienne peine ancora à s'imposer en Orient. Ce sont des poèmes qui précèdent Grégoire de Nazianze. Et c'est précisément la découverte de ces poèmes imparfaits qui nous a donné un aperçu de ce qui se faisait localement et qui nous a permis de nous rendre compte de ce que nous avions perdu et des voies qui étaient explorées. Du point de vue de la relation avec la tradition classique, ces poèmes permettent de voir comment on est arrivé à cette idée de l'hellénisme chrétien, développée ensuite de manière exhaustive par Cappadocien et les autres grands écrivains chrétiens. La langue classique, très simplement, est adaptée au nouveau contenu et étayée par des citations bibliques. Regardez juste un exemple, mais que ça suffit pour comprendre les mécanismes. C'est le début du poème sur Abraham. C'est lui qui a créé le monde, avec le ciel et la mer, envoya du haut de l'éther un ange rapide vers Abraham avec l'ordre d'ammoler son propre fils en sacrifice solennel. Ce vers commence en citant le début de l'ekphrasis du bouclier d'Achille dans l'Iliade, livre 18, que vous avez à l'écran. Il utilise aussi Angelon Ocyun, qui est un syntagme homérique, pour désigner Iris et Hermès. Et ici désigne plutôt l'ange Gabriel, peut-être. Mais les poètes superposent les échos homériques au début de la déclaration de foi qu'on trouve dans Actes 17, 24. Ο Θεός ο που γέσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γες υπάρχον. Un passage qui est souvent cité dans la profession de foi des martyrs. Vous avez juste un passage ici à l'écran. C'est-à-dire, c'est la tradition classique et celle biblique qui s'entremêlent, de façon qui est tout à fait naturelle, disons comme ça. Et ça, c'est déjà... Même si, je répète, le style et la prosodie de ces poèmes sont loin d'être parfaites, c'est déjà le système qu'on trouve dans la poésie chrétienne postérieure. Vous vous rappelez l'empereur Julien et sa prohibition d'enseigner aux professeurs chrétiens, parce qu'il avait compris bien quels étaient les points les plus délicats, c'est-à-dire ce que les chrétiens étaient en train de faire, c'est-à-dire de transformer la padeia hellénique simplement dans un langage cultivé. Et Julien voulait que la padeia soit liée à la religion, à la confession religieuse. Voilà, déjà avant Julien, peut-être à peu près dans les années, disons 50 du 4e siècle, les chrétiens avaient déjà essayé de faire cette opération de transformation du langage classique. Alors, on voit ici bien comme une production locale, et je vais terminer, d'un niveau stylistique bas, permet d'évaluer la manière dont la nouvelle conception chrétienne de la païdéia hellénique s'est, de façon progressive, établie et affirmée. Le bas, en somme, est porteur de nouvelles valeurs esthétiques. Et une fois de plus, les mécanismes de la diffusion et de la réception orale des textes nous permettent de mieux la comprendre. J'ai dit à plusieurs reprises que la païdéia classique constituait un facteur identitaire. C'est l'aspect que nous allons développer dans la prochaine séminaire. Les textes épigraphiques et littéraires que nous avons vus aujourd'hui soumettent l'identité culturelle traditionnelle à une transformation progressive, une démocratisation dont le résultat est une païdéia qui est absorbée et christianisée et qui, à son tour, a contribué de manière décisive à la définition et au maintien de l'identité culturelle dans les régions de la Méditerranée. Le mot démocratisation évoque en lui-même, bien sûr, la fameuse définition de Santo Mazzarino, la démocratisation de la culture dans la tarde antiquité. C'est un conseil dont on a parfois abusé et je ne voudrais pas pécher par les mêmes défauts. Mais je crois que le modèle d'une démocratisation dans les deux sens, ascendante et descendante, peut être adapté à ce que nous avons vu aujourd'hui. L'intérêt d'adopter ces modèles interprétatifs réside, à mon avis, surtout dans la possibilité qu'il offre d'évaluer les textes selon une approche qui n'est plus liée à des jugements de valeur sur la base des normes classiques. En d'autres termes, la païdéia classique devient non pas l'étalon, mais les substrats sur lesquels se greffent des pulsions excentriques, démocratisation ascendante et dont le prestige continue d'être reçu dans des contextes bas ou provinciaux. Démocratisation ascendante, descendante. Ces deux phénomènes trouvent leur vecteur dans la dimension performative et orale de la production littéraire qui assure la participation consciente du public au processus. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.